France Inter.
Il paraît que quand est née Rita, c'était déjà un miracle en soi. Ses parents, Antonio et Amata, ne pouvaient pas avoir d'enfant. Amata pleurait, Amata priait. Une nuit en rêve, elle a vu Rita. Le lendemain, ou presque, Rita était là. 1381, Ombri, le mois de mai est joli. À Rocca Porena, en tout cas, là-haut, sur la montagne, le bruit de la guerre n'arrive pas. Elle est de type sanguinaire, entre deux papes rivaux, je crois. Et puis partout, il y a la peste, alors il y a partout la mort. Oui, mais ici, il y a Rita, et ses parents ne voient que ça. Les abeilles lui volent dans la bouche, mais pourtant ne la piquent pas. C'est un prodige, Dieu sait pourquoi. Il paraît que Rita est pieuse, qu'elle veut devenir religieuse. Ses parents s'y opposent, toute la famille est pauvre. Vaut mieux qu'elle se trouve un époux, un toit pour tous et puis des sous. Rita est une jeune fille polie, elle est serviable et elle dit oui à Paolo, donc son mari. Paolo est jouisseur, Paolo est buveur, Paolo est brutal, il a des rages animales. Il paraît que Rita encaisse tant l'autre joue et serre les dents. Elle le fait pendant 18 ans jusqu'à la naissance des enfants. Paolo n'est plus le même homme, elle l'a guéri, l'a adouci, paraît même qu'il s'est converti. Sauf que le mari a des ennemis et qu'ils lui font la peau une nuit et que ses fils réclament vengeance. Alors Rita y pense, et puis elle fait cette prière à Dieu. Prenez-les-moi, je crois qu'il vaut mieux, je préfère les voir monter au ciel que les voir devenir criminels. Bingo, les fils meurent. Rita est seule, Rita est libre, Rita peut suivre enfin sa voie. Il paraît qu'ils l'ont jetée 3 fois au couvent avant de l'intégrer. Il paraît qu'elle s'est accrochée et qu'elle a encore encaissé mauvais traitements, humiliations. Elle résiste, c'est une vocation. Elle a un stigmate sur le front, elle ressuscite des arbres morts. Il paraît que Dieu l'a choisie et qu'elle suscite la jalousie. Il paraît qu'elle est morte en mai, 76 ans, Saint-Sacrement, et sur sa tombe, en défilé, le muet se met à parler, le paralytique à bouger, l'aveugle, c'est « Oh mon Dieu, je vois !» Oui, tout ça grâce à Sainte Rita. 5 siècles après, l'Église dénia, enfin canonisée Rita, femme mal mariée ou prostituée, patronne des causes désespérées. Je sais pas si elle a existé, mais je crois qu'elle s'est réincarnée.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
C'est incroyable, ça marche à tous les coups. Tout le monde danse en régie, là on danse. Bonsoir, bienvenue Giovanna Rincon. La vida es un carnaval, la vie est un carnaval, vous êtes d'accord?
Ah bah oui, il faut vivre la vie comme étant un carnaval.
Et comme Célia Cruz donc.
Et comme Célia Cruz.
Évidemment. Et Sainte Rita, ça vous va bien?
Oui, aussi, pourquoi pas. Pas tout le temps, mais ça va.
Figure de la lutte pour les droits des personnes trans et des prostituées, vous menez également, et depuis toujours, ou presque, le combat contre le sida et la stigmatisation des malades. Parce que, au fond, toutes ces causes-là vont ensemble?
Dans ma vie, oui.
Ouais.
Et dans la vie de certains comme moi, oui. Donc, ce sont des cumuls, des facteurs de précarisation, de vulnérabilité que la vie nous impose et qui des fois sont très dures à vivre, mais oui.
C'est la fameuse intersectionnalité des luttes, c'est ça?
Cette intersectionnalité, c'est ce cumul des facteurs qui précarisent, qui mettent les personnes en situation de pauvreté, très exposées au risque des maladies, des violences, des inégalités sociales et des santé aussi.
Vous êtes aujourd'hui vice-présidente pour l'Île-de-France du comité régional de lutte contre le VIH, mais également la fondatrice de l'association Acceptes TT pour transgenres. Au-delà du titre et des responsabilités qui vont avec, qui êtes-vous, Giovanna Rincon? Qui voyez-vous avant tout quand vous vous regardez dans ce miroir?
Alors moi, je suis une femme trans qui s'est émancipée très très jeune. Une personne qui assume aujourd'hui son parcours de vie et qui est très engagée aujourd'hui dans la lutte contre toutes les inégalités qui touchent notamment la communauté trans.
Vous aimez cette femme que vous voyez dans le miroir?
Je l'aime et je apprécie beaucoup son combat. J'apprécie aussi sa ténacité et surtout...
Et sa crinière blonde.
Aussi. Et surtout, j'apprécie aussi cette capacité à ne pas victimiser dans la vie.
En ce jour d'existence inter, marche des personnes trans et des personnes intersexes, mais également de celles et ceux qui les soutiennent. Vous nous direz, Giovanna Rincon, ce qui vous a mené à porter ce drapeau et à marcher en tête de cortège, un chemin qui part de Bogota, passe par Rome, débouche à Paris, moyennant quelques péripéties.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye. On ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Stromae sur France Inter avec ce titre « Fils de joie ». Douala Rincon, vous qui êtes en première ligne dans le débat sur la prostitution, l'expression « fille de joie », vous en pensez quoi? C'est important de choisir les mots.
Oui, c'est important, surtout quand sur la question de la prostitution, on a quand même un débat hyper difficile. Hein. Et c'est un débat qui crée aujourd'hui beaucoup de fractures idéologiques, notamment à l'intérieur du mouvement féministe. Et cette notion d'abolitionnisme qui...
C'est-à-dire les lois qui veulent abolir la prostitution, notamment en sanctionnant le client, par exemple.
Par exemple. Donc, ça crée une confusion et une amalgame entre victimes de la traite et des personnes qu'on choisit pour d'autres facteurs, le travail du sexe, la prostitution. Et c'est vrai que ça met en péril aussi toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour aider soit les victimes de la traite, soit aussi les personnes qui ne le sont pas.
Mais alors, dans ce débat idéologique-là, qu'est-ce que dit fille de joie?
Alors, fils de joie, c'est surtout, je pense, un cri vraiment politique pour lutter contre le stigmate qu'on porte sur les femmes, notamment, qui assument en quelque sorte le travail du sexe, la prostitution. Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées, notamment aux femmes concernées.
Et allez hop, cap sur Bogota.
France Inter, En Marge.
Bogota, donc, maternité de la Hortoie dans la vieille ville, le 16 octobre 1969, très exactement. Vous êtes là, Giovanna, vous venez d'arriver. Et au-dessus du berceau, il y a Césarina et Alfonso, vos parents. Elle est douce, elle est aimante, elle aime rire, il est baratineur, il est écorché vif, il boit beaucoup. Comment ça se passait entre les deux? L'ambiance à la maison, c'était comment?
C'était une ambiance particulièrement difficile. Une mère qui travaillait beaucoup et qui était tout le temps sous l'emprise d'un homme qui buvait beaucoup, qui la maltraitait. Ma mère souffrait beaucoup, non seulement la maltraitance, mais aussi le manque, parce qu'elle travaillait, mais en même temps, elle ne voyait pas l'argent de son travail. Et surtout...
Votre père était cordonnier, c'est ça?
Mon père était cordonnier. Ma mère travaillait pour lui, en fait.
D'accord.
Et en réalité, c'était ma mère qui travaillait, mon père qui recevait l'argent et qui utilisait l'argent, mais pas vraiment pour payer de quoi se nourrir à la maison, correctement payer le loyer. Donc, ma mère, c'était une femme très aimant, très douce, mais en même temps, quelqu'un de très soumise aussi. Et donc, elle ne s'est jamais révoltée. Donc, c'est vrai que mon père en profitait beaucoup de cette femme douce et très soumise en même temps.
Vous grandissez au milieu de demi-frères et de demi-sœurs, 10 enfants au total, famille recomposée dans les grandes largeurs. Quel type d'éducation est-ce que vous recevez toutes et tous ?
Une éducation très catholique, déjà. Mmh. Ma mère était très croyante, ou elle est très croyante. Et puis, ben, un père qui n'avait pas eu d'éducation, mais qui s'est cultivé beaucoup, qui lisait beaucoup le journal, et qui avait beaucoup de choses à raconter. C'était plutôt aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je le reconnais, c'était un homme fascinant, qui avait beaucoup de chacha, qui savait parler, qui était tout le temps informé sur la politique internationale. Et c'est vrai que bon, c'était plutôt entre deux choses, un peu à l'opposé l'une de l'autre. Ma mère, qui ne parlait pas beaucoup avec lui, qui n'avait pas beaucoup d'instructions ni d'éducation. Et de l'autre côté, mon père, qui ne l'avait pas non plus cette éducation, mais qui s'est nourrissait un peu de façon un peu empirique, autodidacte. Hein.
Dans les couloirs de la maison résonne le bruit du cireur électrique. Partout flotte la vapeur du riz cuit, incontournable compagnon de tablée en Colombie. Mais l'enfance, dites-vous, elle a le goût de la peur. Peur de quoi ?
La peur de la maltraitance physique, de les insultes, de le mépris, de devoir travailler quand t'es un enfant, dans la cordonnerie de mon père. La peur de parler aussi, d'être soi-même. Et puis, bah, la peur à tout moment que les personnes se posent des questions sur pourquoi tu parles comme une fille, pourquoi tu te comportes comme une fille. Donc, la peur d'être dressée en quelque sorte en permanence.
Vous, quel genre d'enfant est-ce que vous êtes ?
Suis-je un enfant plutôt introverti, un enfant qui regarde beaucoup les choses, qui observe beaucoup les choses.
Sensible ?
Très sensible. Et en même temps, quelqu'un qui est prêt à tout moment à aider l'autre. Mmh. Depuis mon enfance, notamment mes autres frères, notamment Mauricio et Oscar, qui étaient mon neveu, qui a grandi avec moi. Et donc, voilà, j'avais un cœur tout le temps un peu nourri par la peur de mon père qui était hyper violent, mais en même temps, tout le temps dans une espèce de silence, mais très observateur. Je pense que c'était une façon aussi de me préserver en quelque sorte.
Ces rencontres, vous, votre poussin en peluche, Seferino, vous voudriez parfois partir loin, très loin de chez vous, et alors vous n'auriez plus peur de rien, et alors vous seriez bien main dans la main avec la panthère de la télé. Là, ça y est, vous vous tirez. Quel effet, la panthère rose ?
Ça me renvoie au premier moment de la télé, l'apparition de la télé. C'était merveilleux de pouvoir voir les dessins animés à la télé, notamment Pink Panther. Et puis, aujourd'hui, ça me ramène évidemment à des moments de joie où on entend à la télé, on attend ce moment hyper précieux de pouvoir voir les aventures de Pink Panther.
Dans vos yeux d'enfant, j'imagine des fils tout plein d'images, tout plein de rêves. À défaut de pouvoir un jour devenir la panthère rose, vous rêviez quoi ? Plus tard, vous vous imaginiez comment ? Une héroïne avec des super-pouvoirs ?
Oui, ça, après, c'est l'apparition de ce super-héros à la télé, Superman, Batman, Wonder Woman et tout. Et donc, moi, j'ai rêvé, pendant la nuit, je pense, de devenir une super-héroïne tout en acier. Et je pense que c'était une façon aussi de me percevoir comme étant quelqu'un de fort, qui construisait en quelque forme un caractère fort pour lutter effectivement non seulement contre la violence intrafamiliale, mais aussi contre la violence à l'école, du monde. Mais aussi, je pense que quand je rêvais d'être cette super-héroïne, c'était une façon aussi d'être sensible aussi aux difficultés des autres. Mmh. Et je pense que...
Et on est super-héroïne pour aider les autres, toujours ?
Oui, je pense. Mmh. Oui.
À l'école, vous adorez les sciences naturelles, fascinée par la biologie, passionnée par l'humain. C'est dans la cour que se développent tous vos talents. Toujours à l'écoute des autres, vous avez un don certain pour fédérer. Et comme vous avez aussi celui de danser, en général, sur la piste de danse, vous êtes plutôt du genre au centre. En fait, elle est terrible cette émission, parce que d'un côté, on a envie de continuer à danser, des deux côtés de la vitre, encore une fois, et en même temps, on a très envie d'entendre la suite de votre histoire, donc pardon. Mais je vais vous poser la question, Giovanna Rincon, quel plaisir vous procure la danse à ce moment-là de votre vie ?
C'est énorme, parce qu'on avait un tourne-disque à la maison, ancien, en très mauvais état, mais il y avait un vinyle de Kiss qui est apparu à la maison, c'est un demi-frère qui l'a rapporté à la maison. Et je le mettais en boucle, en permanence, et je dansais au moment où il n'y avait personne à la maison. Et donc,
sauf qu'un jour, vous vous faites gauler.
Un de mes frères arrive et m'échoppe avec son vinyle. Et donc, c'était quelqu'un qui avait une emprise assez particulière sur moi, assez violent aussi. C'était aussi de la violence.
Vous avez pris des coups pour avoir dansé sur cette chanson-là.
Sur cette chanson, et surtout de la danser avec une
sensualité,
une forme qui ne lui plaisait pas, parce que je devais me comporter comme un garçon, ouais. Et le danser en étant sûrement moi très efféminé ou très ouais. Fille. Pour lui, c'était presque une insulte, non seulement pour la chanson, parce que lui, il adorait cette chanson aussi, qui était quand même portée par des mecs hyper,
alpha,
macho alpha.
Vous avez 10-12 ans, quel est votre rapport à l'époque avec les filles et avec les garçons ?
Alors, avec les garçons, déjà, c'était l'attirance. Et puis, les coups, les insultes, la transphobie, le mépris, l'exclusion. Avec les filles, c'était plutôt un rapport de complicité, de pouvoir discuter des choses, de faire des choses ensemble, de s'amuser ensemble. Mmh. Et puis, c'était avec les filles aussi un rapport émotionnellement où je m'identifiais beaucoup. Donc, je me sentais en effet miroir, en quelque sorte.
Alors, vous avez, à une douzaine d'années, je crois, une première histoire d'amour avec un garçon. Mm-hmm. Histoire d'amour cachée.
Cachée, totalement.
Sauf qu'un jour, vous vous êtes découvert. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ?
Alors, je suis à l'entrée de la maison. Je suis avec un garçon qu'on s'est fréquenté depuis plusieurs mois. Mais c'était un amour caché, en étant tous les deux garçons. Et donc, un soir, mon frère, demi-frère toujours
le même,
toujours le même, qui nous a chopés parce qu'on était trop proches, en train de se faire un câlin. Et donc, ça a été la cata. Lui, il a insulté et agressé ce garçon qui a dû s'échapper en courant. Et puis, moi, c'était tout de suite aussi des coups, et il a informé mes parents, mon père, et pareil, mon père qui m'a frappé, qui m'a insulté encore une fois. Donc c'est une relation mignon, qui n'avait aucun autre chose que vraiment être ensemble. Et puis,
Ça se fracasse sur cette violence-là.
Ça se fracasse.
Ouais. À la maison, les coups vont continuer de pleuvoir autour de vous et sur votre tête. Mais ce soir de Noël, c'est le soir de trop. Vous avez 12 ans à peine. Et cette fois-là, vous partez. 6 mois de fugue. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 6 mois-là?
Alors, c'est un jour de Noël. Donc, il y a un grand problème à la maison, toujours à cause de ma féminité extrême. Et donc, toujours mon même frère qui m'insulte, qui me frappe, mon père aussi. Donc, j'avais marre de toutes ces situations-là. J'ai sorti vers 19h de la maison, c'était déjà la nuit. Et j'ai pris un bus et je me suis retrouvé au centre de Bogota, au milieu de tout le quartier des prostituées. Et puis, je commençais à marcher dans le centre de Bogota, sans savoir où je devais y aller. Je suis tombée sur un lieu de prostitution où il y avait beaucoup de femmes trans. Et une m'a repérée. Elle m'accompagnait vers une boîte de nuit qui, dans la journée, était un restaurant. Et c'était un peu comme une espèce de refuge. C'était un restaurant, le propriétaire était un homme homosexuel qui vivait en couple et qui hébergeait pas mal des personnes des LGBT, notamment des garçons gays, et qui subissaient aussi des violences intrafamiliales. Et j'ai passé 6 mois là, dans ce lieu-là, qui était pour moi un refuge. Je précise que dans cette période-là, il n'y a pas eu de prostitution, il n'y a pas eu de drogue, il n'y a pas eu d'exposition. C'était vraiment un lieu que je retiens comme étant un vrai refuge pour moi et que j'apprécie beaucoup.
En revanche, c'est là que débute votre transition de votre propre chef et de façon très artisanale, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Alors, à l'époque, donc, il y a Roberta Kloss, qui est une femme trans brésilienne, et Eva Robbins, qui est une femme trans italienne. Et il racontait comment, dans son parcours, ils avaient réussi à féminiser leur corps en prenant des oestrogènes par la prise de la pilule anticonceptive. D'accord. Pour les femmes. Ouais. Moi, je me suis dit, j'ai ça à portée de main, c'est ma mère qui prend cette pilule-là.
Et ça vous parle tout de suite? Vous vous dites, en fait, ça c'est pour moi?
Et donc, de façon très instinctive, je dis, c'est ça de quoi j'ai besoin pour commencer ma transition. Et effectivement, j'ai commencé à piquer les pilules de ma mère et j'ai commencé à les prendre.
Parce qu'entre-temps, vous êtes revenu chez vous?
Entre-temps, je suis devenu chez moi et donc... la féminisation, ne s'est pas fait attendre et j'ai commencé à avoir la poitrine qui s'est développée rapidement. Et puis, effectivement, une féminisation physique assez évidente qui a posé beaucoup de problèmes, encore beaucoup plus de problèmes à la maison qu'auparavant.
Qu'est-ce qui fait que vous l'arrêtez, cette transition? C'est pas forcément à cause de la pression familiale ou si?
Si, c'est la pression familiale et c'est la rencontre dans cette même boîte de nuit, mon refuge, que je vais continuer à fréquenter, même après avoir retourné à la maison. Je rencontre ce garçon qui est menuisier et qui commence un peu à me faire un peu le lavage du cerveau, à me conditionner sur le fait qu'être trans ou une femme trans, c'était quelque chose de mauvais, que si je devenais une femme trans, il m'attendait que des choses mauvaises dans la vie, violence, prostitution, maladie et autres. Et donc, il me conseille d'arrêter ma transition. J'arrête les hormones et je commence à vivre une vie de garçon homosexuel avec lui, en couple. Et voilà.
Alors, lui vous dit, on ouvre un salon de coiffure, je te fais les meubles. Tu fais les coiffures, il est menuisier. Vous avez un peu coupé les cheveux parfois. Vous avez 15 ans, arrêté l'école depuis longtemps. Trop cher l'école, il fallait aider votre père. Et alors là? Là voilà, la coiffure, un avenir possible, du concret, un métier, peut-être même de l'argent à la clé. Et donc oui, à 15 ans, ce salon, vous le tenez. Irène Cara sous les sèches-cheveux, c'est pas mal, hein?
C'est
un peu l'ambiance, hein?
C'est génial.
Et ça?
C'est très beau.
Vous y êtes, là?
Ah si, c'est magnifique.
Qu'est-ce que ce salon va vous apporter dans votre parcours?
Alors déjà, une autonomie socio-économique très importante. Je commence à gagner mon argent. Je commence à aider ma famille. Donc en quelque sorte, je deviens chef des familles. Ça m'apporte aussi une assurance. Et je commence aussi à m'émanciper à niveau de la parole, prendre des décisions, savoir gérer sa vie, aussi gérer un business. Et puis, surtout, c'est devenu un lieu qui me permet de rencontrer beaucoup d'autres personnes de la communauté qui viennent travailler dans mon salon. Et ça me permet aussi de commencer à offrir du travail pour les personnes trans.
Oui, parce que on s'est parlé pour préparer cette émission et vous m'expliquiez que les salons de coiffure à cette époque à Bogota étaient en quelque sorte un point de chute assez naturel, assez classique pour les personnes trans.
Ça a été petit à petit, hein.
Ouais.
Et c'est vrai que dès la prostitution, au salon de coiffure, il y a eu ce changement qui a été un peu évolutif. Une espèce de stratégie de business des salons coiffure pour utiliser un peu cette notion des hommes qui sont des femmes en même temps.
C'est-à-dire que ça a attiré les clients.
Que ça a attiré beaucoup les clients et c'était un peu quand même aussi quelque chose de stigmatisant parce que les gens ils venaient aussi pour regarder un peu les trans dans les salons. Et puis ben voilà, c'est quand même un moment où pour les femmes trans notamment, cet espace permet quand même de souffler, en quelque sorte, une espèce d'air social qui jusque-là leur était interdit. Et pour moi, la rencontre avec cette femme trans à l'époque m'a servi aussi pour pouvoir vraiment me construire en tant que personne trans.
Et alors vous reprenez cette transition amorcée à 12 ans, indépendante financièrement, libre d'être qui vous êtes, vous commencez à trouver votre place dans le monde, sauf que le destin est joueur, mais que ce jeu n'a rien de drôle, nouveau coup d'arrêt. À 20 ans, vous apprenez votre séropositivité, et puis on vous donne 3 ans à vivre.
C'est ça, oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Ben écoutez, ben c'est vrai que ça a été quand même un... Alors, je revive un peu le moment. Cette femme médecin qui va rendre le diagnostic était en larmes. Et ma première question, ça a été juste de savoir combien de temps il m'a resté à vivre. Et elle m'a répondu sûrement 3 ans.
On se parle du tournant des années 90, on est encore par loin de cette époque où on parlait de cancer gay, où les personnes atteintes du sida étaient stigmatisé,
lapidé,
oui, effectivement. Vous êtes contaminé, vous, à cette période-là.
Bien
pas
sûr.
N'importe laquelle.
Bien sûr. Ça a été quand même un choc. Et en même temps, ça a été un moment où j'ai repris quand même, en quelque sorte, le sens de mon existence. Parce que je ne pense pas avoir eu, à ce moment, la peur de mourir. Mais plutôt la peur de ne pas pouvoir continuer à faire des choses. Ça a été un moment où, pour la première fois, je commence à comprendre aussi ces enjeux un peu presque politiques qui sont hyper violents quand tu ne les connais pas, quand tu n'es pas concerné, quand tu n'es pas vraiment face à des réalités si crues. Et donc, ça a été un moment où j'ai dû prendre beaucoup de décisions. Et heureusement que j'avais un soutien, mon frère, demi-frère qui est homo et qui m'a beaucoup soutenu à ce moment-là.
Alors, à 22 ans, vous décidez de vendre le salon, vous partez en Italie. Vous y serez travailleuse du sexe. Mais pourquoi l'Italie et pourquoi travailleuse du sexe?
L'Italie, parce qu'il y avait beaucoup d'autres femmes trans aînées qui étaient déjà venues en Europe, notamment à Paris et en Italie, qui en rentrant en Colombie nous racontaient toute leur histoire, comment ils s'étaient émancipés à niveau économique. Pour te donner un ordre d'idée, en un an, elles avaient construit tout un capital qui leur permettait d'acheter 2-3 maisons
en étant travailleuse du sexe.
Et d'échanger totalement la donnée, d'inverser cette notion de rapport de pouvoir dans la société. Donc, très vite, je prends la décision, étant donné qu'il me restait très peu à vivre, de me dire, tant que faire, je fais le travail du sexe. Et je pars en Italie, je vends mon salon, je vais y aller faire le travail du sexe. Et puis, je voulais surtout avoir une maison, pour lui laisser une maison à ma mère. Et donc, c'était mon premier objectif. Et je pensais que c'était l'unique chose que j'allais pouvoir, à cause du sida, de faire à cause du sida.
Vous nous direz, Giovanna, si les choses se sont passées comme vous l'aviez imaginé. Vous nous direz votre arrivée, et puis les amitiés, la solidarité, puis l'engagement, la fin de la honte, l'arrivée des traitements, et puis le combat. Mais là, vous savez quoi, on va danser encore. Impossible de la faire sans elle cette soirée. La Madone, la Chiconne, elle est aussi sainte patronne des causes désespérées. Giovanna Rincon, vous aviez des posters de Madonna dans votre chambre d'ado. Elle vous a suivi absolument partout tout au long de votre vie. C'est qui Madonna pour vous ?
Madonna, une icône, vraiment, c'est un mythe. Quelqu'un qui a vraiment aidé beaucoup la communauté LGBT à s'émanciper, à pouvoir lutter contre tous les préjugés, qui évidemment a mis en évidence des enjeux politiques vis-à-vis des questions LGBT. Quelqu'un qui a osé à prendre la parole, qui a défié et méfié.
Une liberté incroyable.
Et puis, quelqu'un qui, en même temps, dans une période très dure, l'époque du sida et tout, avec sa joie, sa façon de faire, ses chorégraphies magiques et tout ça, ça mettait un bâme de joie et des discos. Incroyable.
Absolument partout,
donc
ouais.
C'est quelqu'un qui reste vraiment dans mon cœur et dans mon histoire personnelle, et je pense que de toute la communauté trans LGBT en général. Donc.
Giovanna Rincon, vous vous êtes bagarrée pour l'accès au traitement des personnes atteintes du VIH, pour les droits des prostituées, pour les droits des personnes trans. Tous ces combats-là, vous allez nous les raconter. Vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Ti attraversa il cuore, sente un'emozione che non se ne va, non so dirti come, ma succede solo quando due persone
vanno insieme. Laura Pausini sur cette antenne grâce à vous, Giovanna Rincon. En Italie, vous la trouvez, l'amicizia, l'amitié, ou peut-être même l'amour?
Je l'avais trouvée depuis longtemps, mais je pense que j'ai appris à avoir l'amitié, la solidarité, l'amitié, la solidarité autrement et de façon beaucoup plus
forte, dense,
pure profonde, en quelque sorte, de façon beaucoup plus transparente, avec une prise de conscience importante sur beaucoup d'enjeux, notamment dans un moment critique de l'épidémie du sida. Et je pense que c'était une façon de voir l'amitié avec une volonté d'agir aussi pour la communauté, pour mes copines qui étaient à ce moment-là très frappées par l'épidémie du sida.
Alors justement, au début des années 90, comment vivent les personnes atteintes du VIH en Italie ?
Cachées, personne n'en parle. À l'intérieur de la communauté trans, on était très frappés. Tout le monde parlait d'une grippe, tout le monde parlait d'un cancer. Personne ne voulait assumer que peut-être elle était touchée. C'est une époque où le dépistage n'est pas proposé non plus. Ça n'existait pas. Le test rapide, ni le test dans les centres de dépistage n'est pas accessible non plus. Et donc, tout le monde vit sous le soupçon, son propre soupçon d'avoir été touché par le sida. Et puis, c'est vrai qu'on vit toutes dans des hôtels, nous, dans notre communauté. Et donc, on vit dans une situation entre on gagne de l'argent pour avoir un futur dans notre pays, mais en même temps, oppressant, on est dans des très mauvaises conditions parce que l'accès aux soins n'est pas garanti non plus en Italie à ce moment-là.
Mais doucement, sûrement quand même, les choses avancent un peu, les taux se desserrent légèrement. Et le 25 juin 1996, la Rai Uno organise l'équivalent de son premier site d'action, Insieme per la Speranza, présenté par Paolo Bonolis.
Siamo quasi a 300 milioni, grazie davvero. La corsa alla lotta.
L'AIDS, c'est le sida, donc en Italie, quasiment 300 millions de lire à l'époque. Vous êtes devant votre télévision
et
ce jour-là.
Et j'ai presque les larmes là, parce que c'est difficile d'oublier ce moment où il y a un souffle d'espoir dans cet écran où tu vois finalement il y a finalement une possibilité pour traiter le VIH. Et on entend aussi la parole des personnes concernées derrière cet écran. Et c'est très fort parce que nous, on est cachés, on est une population invisible. Et être devant cet écran avec des personnes qui sont en train de lutter et pour non seulement accéder aux médicaments, pour avoir de l'argent, pour aider les personnes déjà touchées, en mauvaise situation. Donc, c'est quand même un moment unique. Et c'est un moment où tu t'accroches encore de plus à la vie.
Vous, comment est-ce que vous avez eu accès au traitement ?
Alors moi, dans cette même écran, il y a eu des messages où ils s'invitent aux personnes à aller dans différents centres hospitaliers pour accéder au dépistage et peut-être au traitement. Donc je me suis rendu à l'hôpital San Galligano à Rome, où j'étais très très mal accueilli. J'ai eu un médecin qui m'a reçu, qui m'a dit oui, effectivement, on peut mettre à disposition ces traitements, ils sont ici, mais on va donner la priorité aux Italiens d'abord. On peut pas vous donner ces traitements à vous, surtout que c'est à cause de vous, des personnes prostituées, des personnes immigrées et travesties, que l'épidémie est si importante. Ouais. Il m'a refusé l'accès au traitement. Je me rappelle que toujours à l'écran, j'avais vu Pia Kovri, qui est une militante pour les droits des personnes prostituées en Italie, qui parlait aussi de la situation du sida auprès de la population prostituée et qui, en bas de l'écran, mettait son numéro de téléphone fixe. Ouais. Pour que les personnes concernées puissent l'appeler pour avoir des renseignements, des informations sur ces questions-là. Donc, une fois que j'étais un peu expulsé, en quelque sorte, de l'hôpital par ce médecin, j'ai appelé Pia, je lui ai raconté la situation et elle m'a donné un peu tous les éléments de langage que je devais tenir pour revenir à cet hôpital. Et elle m'a demandé, Pia, de lui dire au médecin que si il refusait de me prendre en charge, de me mettre ça par écrit. Donc, c'est ça que j'ai fait.
Et du coup, vous pouviez attaquer.
Et donc, voilà, oui, c'est une façon, oui, pour Pia de me donner les outils pour pouvoir vraiment
faire comprendre très doucement à l'interlocuteur que vous n'allez pas vous laisser faire.
Et qu'il y avait quand même des responsabilités de sa part sous le plan légal. Chose que j'ai fait, donc le médecin a entendu ce que je lui ai dit et d'un très mauvais goût et avec beaucoup de distance, elle m'a renvoyé vers les infirmières et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier traitement, très lourd à l'époque.
De l'autre côté des Alpes, au même moment, ou presque, Paul Amar sur Antenne 2.
Bonsoir, nous serons tous contre le sida ce soir, tous côté scène au Zénith, avec un programme unique réalisé et diffusé par toutes les chaînes de télévision nationale. C'est une première mondiale, tous côté foyer, où vous serez nombreux à regarder sans zapper, inutile ce soir. Vous serez nombreux à montrer votre solidarité avec ceux qui souffrent de ce mal terrible, parce qu'ils ont aimé ou parce qu'ils ont été contaminés.
La France avait un léger temps d'avance sur le sujet par rapport à l'Italie, notamment grâce à son réseau associatif et militant qui est plus faible de toute façon et aujourd'hui encore sur les questions LGBT ou sur les questions féministes qu'en France. C'est pour ça que vous y allez en 2002. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que vous franchissez la frontière ?
Alors, en 2002, Valérie, qui est une amie trans de mon adolescence, qui vivait dans mon quartier, est tombée gravement malade. Elle était déjà aussi, à ce moment-là, évidemment, en Italie. Elle faisait aussi le travail du sexe. Donc, elle était en phase terminale à l'hôpital de Trieste, en Italie. Donc, les médecins, ils ont dit qu'elle avait vraiment soit des semaines, soit des mois devant elle, mais qu'elle allait mourir. Donc, en même temps, on avait commencé à l'intérieur de la communauté à écouter les histoires des autres filles trans qui étaient venues dans les mêmes circonstances très malades en France, notamment à Paris, notamment à l'hôpital Bichat, et qui avaient été reçues par des médecins qui les prenaient en charge et qui elles racontaient que la prise en charge pour les personnes trans atteintes du sida était beaucoup plus meilleure ici qu'en Italie. Valérie, on a discuté je lui ai fait la proposition si elle voulait venir en France, si elle voulait tenter. Elle m'a dit oui, donc on a fait une collecte, on a payé 12 000 euros d'ambulance.
C'est-à-dire c'est toute votre communauté de travailleuses du sexe qui se cotise pour payer l'ambulance, pour que vous puissiez aller toutes les deux, que vous puissiez accompagner votre amie. Vous-même d'ailleurs, vous larguez tout.
Je largue
votre
tout.
Je largue vous ne posez même
vie.
Pas la question. C'est
non, je ne me pose pas la
mon
question.
Mon ami est malade, j'y vais.
Mon ami est malade. Okay. Il est en possibilité de la sauver à Paris. C'était pas faire du tourisme ni rien, c'est juste prendre sa valise et tu pars dans son ambulance après la collecte pour payer. Et j'arrive après 12 heures de trajet à Paris, à l'hôpital à Pitié-Salpêtrière, et j'hospitalise Valérie. 6 mois après, le chef de service et le cadre des assistants sociaux m'appelle à nouveau pour me dire qu'effectivement, bah, Valérie était pareille, qu'elle ne réagissait pas autrement, qu'elle allait mourir et qu'il fallait que je prenne encore une fois une décision, soit je rentre avec elle en Italie à nouveau, soit je pars en Colombie, mais qu'il fallait que je prenne une décision parce que l'hôpital ne pouvait pas la garder. Et ça a été très dur parce que pour la première fois, je me suis trouvé totalement perdu avec Valérie et moi tout seul dans un hôpital où je connaissais personne et j'avais personne autour de moi pour m'aider.
Et vous appreniez le français sur un bécherel.
Voilà.
Vous passiez vos journées dans ce service de maladies infectieuses, le nez sur votre bécherel. Vous avez tenu 6 mois et puis toute une vie aussi, mais cette fois-là vous vous écroulez. Il y a une rencontre que vous faites à ce moment-là qui va tout changer pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, donc il y a les infirmières et tout qui font un peu amitié avec moi et qui, le jour où je me suis totalement effondré en larmes parce que je suis perdu, une infirmière me pose la question et je l'ai dit, ce qui m'a dit le chef des services et le cadre des assistantes sociales. Et donc, le lendemain, j'arrive à l'hôpital et pour la première fois dans la chambre, il y a quelqu'un. À l'époque, on devait rentrer tous habillés de façon stérilisée
avec un
cosmonaute. Je reconnais pas la personne, j'attends qu'elle sorte. Et puis, c'est Claudia, femme trans, militante aussi, et qui travaillait pour une association qui s'appelle le PAST, qui me dit, je m'appelle Claudia, je suis médiatrice en santé, je travaille pour telle et telle assoce. Et je suis venu parce que l'infirmière nous a appelés et nous a mis au courant de ta situation. Je suis là pour te dire que nous, on va pas permettre que Valérie parte d'ici. On va prendre en charge, on va faire tout le nécessaire pour la régulariser en France et pour faire les choses pour elle. Et ça a été pour moi une révélation totale. Je m'attendais pas que ça pouvait exister, une association qui luttait pour les droits des personnes trans ici. Ça a été aussi la rencontre avec une personne formidable qui est Claudia et qui travaille aujourd'hui avec moi.
Le plus fou, c'est que ça a fonctionné parce que mieux soigné, mieux traité, mieux suivi, votre amie Valérie survivra 22 ans. Vous, vous ferez quelques allers-retours en Italie et puis vous vous poserez définitivement à Paris. La Ligue du Nord est entrée au gouvernement italien. Ça sent nettement moins bon pour les étrangers, les prostituées, les sans-papiers, toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, flirtent avec la marge. Ce changement de pays, pour vous, Giovanna Rincon, c'est un basculement. Et en son, ça pourrait donner ceci. Alors pour ceux qui ne seraient pas descendus dans la rue depuis, depuis l'élection de Mitterrand, sachez qu'à chaque manifestation, marche des fiertés, marche LGBT, manifestation féministe, on chante France Gall dans les cortèges et on chante cette chanson-là. Là, on est dans le cortège de l'existence. C'est en France que vous devenez militante.
Je pense que je l'étais déjà depuis très longtemps, mais c'est là où je commence à m'affirmer, à vaincre la peur de parler à la première personne, parce que jusqu'à ce moment-là, j'utilisais toujours la troisième personne, dire je connais quelqu'un qui est atteint du VIH, qui a été dans tel état d'hôpital, je te conseille d'y aller te dépister.
Parce que vous aviez peur, vous aviez honte.
Honte, la peur, et c'est la sérophobie est très lourde.
Ouais.
Pour moi, militer à ce moment-là, à partir de 2010, où je commence à parler ouvertement de qui je suis à la première personne et d'assumer aussi tous ces stigmates pour faire de ces stigmates aussi en quelque sorte une force. Ça a été un exercice très dur. Donc je commence à militer depuis mon arrivée en 2003 à Paris, et une fois que j'ai découvert le tissu associatif. Mais après, c'est en 2010 que je assume vraiment ouvertement qui je suis et tous mes combats. Parler à la première personne, c'est pouvoir aussi faire des choses adaptées, des réponses adaptées, et c'est aussi de pouvoir construire non seulement de ses stratégies en termes de santé et des droits sociaux, mais en même temps, c'est pouvoir raconter en quelque sorte le vécu qui est un vécu expérientiel, mais qui est nécessaire aussi.
En marge. Sur France Inter.
Giovanna Rincon, on touche au moment des au revoir, cette émission bientôt terminée. Alors évidemment, on a la fin en tête. Hein. Vous y pensez, vous, à la finitude des choses, comme on dit, à la fin de tout, peut-être à la vôtre, au moment où tout s'arrêtera. C'est quelque chose auquel vous pensez?
Bien sûr.
Ouais.
C'est quelque chose de logique dans cette existence.
Quel rapport avec la mort est-ce qu'on a quand on a vécu longtemps avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête?
J'ai tellement porté, en quelque sorte, la mort, jour par jour, dans ma pensée, avec le sida qui me persécutait en permanence. Aujourd'hui, il n'est plus là, cette peur. Cette peur est devenue une forme de résistance très importante. Je n'ai pas peur de la mort physique, j'ai peur de la mort sociale. Et c'est contre ça que je souhaite aujourd'hui surtout lutter, pour moi et pour la communauté. Être en vie et être dans une espèce de mort sociale, c'est pas top. Et c'est contre ça qu'il faut surtout lutter pour vraiment avoir une qualité de vie et surtout une qualité des soins, notamment quand on travaille beaucoup dans les stratégies santé comme je le fais aujourd'hui.
Et quoi qu'il en soit, pour l'éternité, ce serait Marc-Anthony que vous emporteriez.
Ah oui.
Voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la.
Vivir mi vida, tout pour peu qu'on ait encore la salsa, c'est ça?
Pour toujours. Et encore.
L'objet que vous emporteriez avec vous, ce serait quoi?
Mon...
Ah, vous l'avez là, oui.
Bah oui.
Ah, il est là, c'est lui
Lui, la souris. En français, c'est Topo Gigio, c'est italien. C'est
oui, Topo Gigio.
C'est un dessin animé italien.
Ouais. Il vient d'où ce doudou qui a vécu, hein?
C'est ma meilleure copine
c'est
qui
vrai?
Me l'a offert il y a 40 ans. Et c'est 40 ans d'amitié. Et donc, depuis 40 ans, il est avec moi, toutes les nuits, à côté de moi.
L'amitié, la sororité.
Et l'amitié, la sororité.
Plus précieuse que tout. En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment.
Merci à toi, Julien.
D'être venu nous raconter votre histoire. Longue vie à vous.
Merci.
Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, évidemment.